Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Télé, radio et digital. Good morning business.
Confrontée à une sécheresse sans précédent, la France découvre depuis quelques jours la notion de priorité pour l'usage de l'eau ainsi que les grosses lacunes dans la politique de gestion des réserves et des ressources hydriques. On va en parler avec Franck Galland, président de ES au carré, cabinet de conseil spécialisé dans l'ingénierie urbaine. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. La France Bonjour. Avait déjà connu des périodes de sécheresse, mais est-ce qu'on peut dire que la situation de cet été est la pire qu'on ait jamais connue en matière de ressources hydriques?
Alors, c'est la pire depuis 1959, avec un déficit pluviométrique sur le seul mois de juillet de 88%. Donc effectivement, la France est rentrée dans un stade où notre climat devient semi-aride, un peu à l'équivalent de l'Espagne. Et si on parle de ce pays qu'est l'Espagne, je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur la manière dont ils ont su s'adapter à une contrainte climatique avec des sécheresses régulières, de plus en plus longues, mais également des phénomènes de pluviométrie particulièrement intenses où pendant 2-3 jours, vous avez l'équivalent d'un an de pluie. Donc dans ce domaine, effectivement, beaucoup de choses restent à faire.
Alors justement, on va devoir apprendre des autres pays. La France, par exemple, est très en retard dans sa politique de gestion de l'eau. On ne réutilise que 1% des eaux usées en France. C'est 15% en Espagne, 80% en Israël.
Alors c'est même moins que 1%. C'est-à-dire que ce recyclage, cette réutilisation des eaux usées, où on va traiter des eaux usées pour les réinjecter en circuit fermé à des fins d'arrosage agricole, à des fins d'arrosage d'espaces verts, effectivement, nous sommes très très en retard. Et en Israël, on est plus proche de 90% aujourd'hui que 80%. Et là, il va falloir effectivement que notre législation puisse évoluer de façon à permettre à des collectivités et à leurs opérateurs en délégation de services publics ou en régie publique mettre en place ce type de projet de réutilisation des eaux usées, mais également d'utiliser ces eaux grises, comme on les appelle, pour le secteur industriel. Je suis très intéressé de voir qu'aux États-Unis, par exemple, les data centers, qui sont des grands consommateurs d'eau, faut le savoir, pour refroidir leurs centres serveurs, eh bien, commencent à intégrer cette problématique de réutilisation des eaux usées. C'est par exemple Google à Douglas en Géorgie ou Infomart à San José en Californie. Ce secteur industriel qui est consommateur, c'est 10% des prélèvements en France, c'est uniquement 6% des consommations, que ça soit l'industrie chimique, l'industrie papetière, l'industrie agroalimentaire, vont devoir déjà introduire des notions de transparence sur l'empreinte en eau qui est la leur, et introduire deux choses, de la digitalisation pour pouvoir effectivement compter précieusement cette goutte d'eau qui rentre dans leur circuit de process, et mettre en place des modules de retraitement des eaux usées. Et pour cela, ils ont un certain nombre de partenaires particulièrement compétents, je pense à des groupes mondiaux comme Veolia, qui doivent pouvoir effectivement leur apporter des solutions à travers des partenariats publics-privés, privés-privés, innovants, en tout cas inédits, pour pouvoir faire en sorte que cette ressource soit protégée.
Qu'est-ce qui bloque en France? Pourquoi est-ce qu'on a un tel retard en France? Vous parliez de réglementation qu'il faudrait modifier, mais est-ce que tout simplement la France, jusqu'à présent, avait l'impression qu'on n'avait pas de problème particulier avec l'eau?
Écoutez, en France, de manière générale, jusqu'à aujourd'hui, nous avions des rendements de réseau que nous jugions suffisants, 20% de fuite. C'est pas suffisant. D'ailleurs, le Grenelle de 2010 avait très très clairement dit que l'objectif était d'atteindre uniquement 15% de fuite. Mais pour ça, il faut investir massivement. Il faut investir 2 milliards par an sur le renouvellement des canalisations. Il faut aussi s'ouvrir l'esprit. Je veux dire, la recharge artificielle de nappe qui se pratique allègrement, par exemple au Moyen-Orient, il faut qu'on puisse profiter de très fortes pluviométries l'hiver pour pouvoir réinjecter dans nos nappes. Un certain nombre de modèles montrent que à horizon 10-20 ans, on va perdre 20 à 30% de disponibilité sur nos eaux souterraines et entre 10 à 20% de débit de nos rivières. Donc il va falloir à l'évidence que nos techniciens, nos ingénieurs puissent travailler grâce à une législation favorable. Et là, l'Europe va nous y aider puisque l'Europe incite à la réutilisation des eaux usées, par exemple. Et il va falloir qu'on retrouve l'esprit de nos grands-parents. Si la Provence a de l'eau, c'est parce que en 1954, on a pu inaugurer la société du canal de Provence. Le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie aujourd'hui a de l'eau, c'est parce que on a un grand groupe qui est bassin Rhône-Languedoc. Si nous avons des centrales nucléaires et 70% de notre énergie vient du nucléaire, c'est parce que effectivement, on a eu une politique industrielle d'après-guerre et une politique gaullienne industrielle qui a permis ces grandes réalisations. Et donc, il faut qu'on retrouve cet esprit avec une vision, une stratégie gouvernementale pour doter la France d'infrastructures en eau adaptées aux 20-30 prochaines années. Et aujourd'hui, très clairement, ce n'est pas le cas. J'en veux pour preuve, nous n'avons aucune station de dessalement. Aujourd'hui, vous avez une ville comme Barcelone, revenons à l'Espagne, voilà, qui est alimentée à raison de 200 000 mètres cubes par jour par une station de dessalement. Et quand cette station de dessalement a eu du retard en 2004, il a fallu qu'on amène de l'eau traitée depuis Marseille à travers des barges pour alimenter en eau Barcelone. Donc on voit bien que les décisions politiques, les financements qui ne sont pas pris aujourd'hui, eh bien on devra subir dans des années très proches, et on le subit déjà cette année, avec des conflits d'usage, avec une agriculture qui souffre énormément, avec des villes, des communes, en milieu rural en particulier, qui se voient dans l'obligation d'adopter des stratégies d'ultime secours en eau, avec du citernage, avec de l'eau en bouteille. Et ça, bah, va falloir qu'on puisse résoudre en anticipant et en se dotant aussi de moyens de réaction, parce que ce que nous vivons là en sécheresse, on va le vivre également en phénomène pluviométrique particulièrement intense. On a tous en mémoire ce qui s'est passé en octobre 2020 sur l'arrière-pays niçois. Eh bien, il faut s'attendre malheureusement cet automne à de très très fortes perturbations dues à des pluies quasi diluviennes. Et quand on a des pluies diluviennes, bah, on a un impact immédiat sur les réseaux électriques. Et nous, dans notre domaine qui est l'eau potable, si on n'a pas d'électricité, ouais, on ne fait pas d'eau et pas d'assainissement.
Vous
et
avez parlé
d'un certain nombre de dégâts.
Vous avez parlé, oui, d'un point intéressant, c'est le niveau de fuite très élevé dans le réseau de transport d'eau. Dans certaines parties du réseau, on en perd la moitié. C'est un vrai scandale.
Alors, je ne sais pas d'où vient votre chiffre très élevé par rapport à nos voisins européens. Nous sommes plutôt de bons élèves. Nos amis belges, c'est 27%.
Mais est-ce qu'on doit se contenter de ces chiffres ? C'est normal de perdre autant d'eau sur le réseau ?
Oui. Alors oui, vous n'arriverez jamais à 100%. À 100%, c'est-à-dire une goutte d'eau qui rentre en sortie de station de production et qui arrive chez le consommateur, c'est impossible. Vous savez, en France, alors peu de Français le savent, mais c'est 900 000 kilomètres de réseau. C'est 22,6 fois le tour de la Terre. Voilà, on a 900 000 kilomètres de réseau sous nos pieds, qui datent pour certains, qui nécessitent une très forte politique d'investissement pour pouvoir effectivement, année après année, on est de manière générale à 320 euros pour changer un mètre linéaire de réseau. Ça prend du temps, ça crée des tranchées dans les villes, donc c'est plus ou moins accepté, et ça ne se voit pas. Le problème de l'eau, c'est que... effectivement, nos infrastructures, à part de belles usines qui permettent effectivement de traiter, qui s'inaugurent avec un beau ruban, eh bien, nos réseaux sont enterrés. Et effectivement, bah, on a besoin de les renouveler, on a besoin de les réparer, et ça, il faut un grand programme d'investissement dans ce domaine, à l'évidence, comme il nous faut pouvoir intégrer, tester de nouvelles technologies pratiquées par nos voisins. Je pense notamment à la recherche artificielle de nappes ou à la réutilisation des eaux usées.
Merci beaucoup Franck Gallon d'avoir été en duplex avec nous, d'avoir été au téléphone avec nous. Vous êtes président d'ES au carré, cabinet de conseil en ingénierie urbaine.